Sur Fréquence 7, comme chaque premier mercredi du mois, on se retrouve, qu'il soit 12h30 ou 17h30, pour l'émission Clair d'étoiles. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Denis de l'association Clair d'étoiles et Brins de Jardin. Bonjour Denis.
Et par Françoise, également de Clair d'étoiles, qui joue le rôle de la Candide. Enfin, une fausse Candide, car comme tous les membres de Clair d'étoiles, Françoise est experte en étoiles. Bonjour Françoise.
Experte, oui, si on veut. Bonjour Denis. Pour cause de confinement, cette émission est enregistrée à la maison avec des moyens techniques limités. Veuillez donc excuser les éventuelles imperfections. Pour la même raison, nous modifions un peu la structure habituelle de cette chronique. Nous ne souhaitons pas vous envoyer observer à l'extérieur. Et la rubrique « Ciel du mois » est suspendue jusqu'en juin. Nous nous consacrerons donc à un focus sur les petits corps célestes.
Oula, les petits corps célestes, quel programme !
Allons, on se calme, les petits corps du système solaire.
Ah oui, c'est plus sérieux. Pour planter le décor, commençons par les gros. Les planètes qui tournent toutes autour du Soleil, dans un même plan, selon une trajectoire presque circulaire, les astronomes parlent d'ellipse concentrique. Une bonne image pourrait être celle d'un stade de course à pied, chaque planète tournant sur sa propre piste sans en sortir.
Alors, dans l'ordre, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On a fait le tour là, hein, il n'en manque pas. Ah si, sauf peut-être Pluton.
Et si, il en manque. Entre Mars et Jupiter orbitent des milliers et probablement des millions de petits astres, bien trop petits pour qu'on les appelle planètes. Ces petits corps font partie de ce que l'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes. La majorité d'entre eux sont minuscules, mais on y trouve toutes les tailles, depuis quelques centimètres jusqu'à quelques centaines de mètres ou kilomètres, voire pour quelques-uns, plusieurs centaines de kilomètres. Bien sûr, les plus gros sont aussi les plus rares. On leur donne le nom de petites planètes, par exemple Cérès, qui mesure près de 1000 km de diamètre. Ces astéroïdes sont riches en silicate, en fer et en carbone. Leur composition ressemble donc à celle des grosses planètes comme la Terre, Mars ou Vénus. On pense que ce sont les résidus que l'influence de Jupiter a empêchés de s'agglomérer en planètes.
Donc, résumons. 8 grosses planètes concentriques autour du Soleil et, entre la 4e et la 5e, une foultitude de petits et moyens cailloux, plus quelques gros que l'on appelle petites planètes.
C'est très bien résumé. Toutefois, dans le bestiaire du cosmos, les choses ne sont jamais très simples. Il existe plein de ces astéroïdes qui ne restent pas forcément sagement entre Mars et Jupiter. À la suite de perturbations, en particulier par Jupiter, certains sont déviés sur des orbites très elliptiques qui peuvent les conduire près du Soleil et parfois près de la Terre. On les appelle des géocroiseurs. Ils sont très nombreux. À ce jour, on en a dénombré près de 20 000.
Et ils sont dangereux. D'ailleurs, les dinosaures s'en souviennent.
En effet, on suppose que celui qui a frappé la Terre à la fin du Crétacé mesurait entre 10 et 80 km de diamètre. Mais tout ce qui dépasse un kilomètre serait catastrophique pour la survie de l'humanité. Et parmi les géocroiseurs, il y en a un bon millier de ce calibre.
Un peu flippant, non ?
Oui, ils sont particulièrement surveillés. On ne voit heureusement pas de risque d'événement catastrophique à l'horizon d'un siècle ou deux, même si le célèbre Apophis devrait passer près de la Terre en avril 2029. Car ce sera à plus de 30 000 km quand même. Trop loin pour être menaçant, mais probablement pas assez pour nous épargner les nombreuses prédictions apocalyptiques des charlatans de tout poil.
Grosse planète, petite planète, astéroïdes de la ceinture et géocroiseurs. D'accord, je vois bien le tableau. Mais les comètes et Pluton ?
En effet, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter n'est pas le seul réservoir de petits corps. Il en existe au moins deux autres principaux. Sans compter des visiteurs occasionnels qui proviennent de l'extérieur du système solaire. L'un d'entre eux, nommé Oumuamua, est passé nous voir entre 2017 et 2018, et un autre, Borisov, est en train de traverser notre système. Le deuxième réservoir est ce que les astronomes appellent la ceinture de Kuiper, un anneau 20 fois plus large que la première ceinture, placé au-delà de Neptune à au moins 5 milliards de kilomètres de nous. Les astéroïdes de toute taille qu'il contient sont encore plus nombreux que ceux situés entre Mars et Jupiter. Parmi eux, plusieurs petites planètes, dont, pour répondre à ta question, fait partie Pluton. On estime qu'il y aurait plus de 70 000 petites planètes d'une taille supérieure à 100 km.
Donc, voilà une deuxième ceinture d'astéroïdes encore plus fournie au-delà de Neptune. Alors, est-ce que ce sont les mêmes corps et est-ce qu'il y a des géocroiseurs parmi eux?
Il y a une différence sensible de composition. Alors que les astéroïdes de la première ceinture sont majoritairement composés de silicates et de fer,
de gros cailloux en somme,
ceux de la ceinture de Kuiper sont plutôt composés d'eau, d'ammoniac et d'hydrocarbures, bien sûr gelés à une telle distance du Soleil, et associés à pas mal de poussière.
Des boules de neige sales, quoi?
Oui, et pour répondre à la question des géocroiseurs, en effet, il arrive que certains de ces objets, à la suite de perturbations provoquées par Neptune ou simplement leurs voisins, se décrochent de leur orbite et se rapprochent des planètes intérieures et même du Soleil. Près du Soleil, les corps gelés commencent à se sublimer. Cela veut dire qu'ils passent directement de l'état de glace à celui de vapeur et s'environnent donc d'un nuage de gaz et de poussière qui va bientôt former une très 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 longue queue illuminée par le Soleil. Ce sont
des comètes. Ben oui, donc les comètes sont des astéroïdes gelés qui se vaporisent.
Exactement. Toutefois, leur passage rapide près du Soleil ne leur laisse en général pas assez de temps pour se vaporiser complètement. Elles reviennent donc périodiquement, comme la grande comète de Halley, qui retourne dans le voisinage du Soleil tous les 76 ans. Comme son dernier passage remonte à 1986, seuls les plus jeunes d'entre nous peuvent espérer la revoir.
86, en 2062. Pas pour moi. Bon, heureusement, bon an mal an, de nombreuses autres comètes nous rendent visite. On peut se rappeler Albop, en 1993, qui est resté visible pendant près de 18 mois, un record. Et on ne risque pas d'en prendre une sur la figure.
Les géocroiseurs issus de la ceinture de Kuiper sont beaucoup plus rares. Mais on soupçonne l'objet dont la chute a ravagé la forêt de Sibérie sur un rayon de 200 km en 1908, d'avoir été un noyau cométaire. L'énergie libérée a été d'environ 1000 fois celle de la bombe d'Hiroshima.
Donc les conséquences peuvent être catastrophiques.
En effet, mais il faut se rappeler que l'immense majorité des astéroïdes mesurent moins de 1 à 10 mètres de diamètre. Et même si l'on tombe plusieurs chaque jour sur Terre, ils se désintègrent entièrement dans l'atmosphère qui nous protège, un peu comme l'eau d'une rivière protège les poissons de la chute des cailloux.
Oui, mais si le caillou est très gros, c'est pas la même chanson.
Oui, celui de Chicxulub, celui des dinosaures, il y a 60 millions d'années, était bien plus gros que l'épaisseur de l'atmosphère.
Un peu comme si c'était pas un caillou, mais un autobus qui était tombé dans la rivière.
Et même une montagne. Bon, rassurons-nous, des chutes de corps de cette taille ne se produisent que quelques dizaines de millions d'années.
Alors restons optimistes. Même si nos ancêtres, les Gaulois, ne craignaient qu'une seule chose, que le ciel leur tombe sur la tête, nous n'avons encore rien détecté d'inquiétant pour les décennies à venir. Mais si j'ai bien suivi, il reste encore un réservoir dont nous n'avons pas parlé.
Ah, tu es redoutable. Eh oui, il en existe un troisième. Celui-ci est absolument gigantesque par sa taille et sa distance. Il contiendrait plusieurs milliards de noyaux cométaires et serait situé bien au-delà de la ceinture de Kuiper, donc à plus de 5 milliards de kilomètres du Soleil, et s'étendrait jusqu'à presque une année-lumière.
Une année-lumière? Mais c'est énorme, ça!
En effet, 10 000 milliards de kilomètres, presque 100 000 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. Nous avons du mal à nous représenter de telles valeurs. Mais surtout, cela représente le quart de la distance qui nous sépare d'Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche de nous. Il est d'ailleurs possible que cette dernière possède son propre nuage de Oort, qui interagirait gravitationnellement avec le nôtre, ce qui déstabiliserait certains des noyaux cométaires et enverrait vers le Soleil ce que nous appelons des comètes à très longue période, plusieurs centaines ou milliers d'années. Autant dire que nous ne les voyons passer qu'une seule fois.
Ah tiens, à propos de passage, je voudrais pas avoir l'air d'une gourde, mais il me semble bien que j'ai vu des ovnis l'autre soir, c'était vers 22h, ça te dit quelque chose ? Je sens que tu vas pas être d'accord.
Oui, je les ai vus aussi. En réalité, ce ne sont pas des ovnis, Ce sont des objets tout à fait identifiés. Ce sont les fameux satellites que lance Elon Musk pour créer son réseau Internet mondial. Et on voit passer régulièrement, maintenant le soir, des trains d'une soixantaine de satellites. C'est assez impressionnant. Et c'est encore plus impressionnant quand on sait qu'à terme, ils comptent en lancer entre 20 et 60 000.
Non.
Et si. Et les astronomes sont vraiment désespérés.
Mais alors, le ciel est une poubelle ?
Le ciel était déjà une poubelle depuis très très longtemps, mais là, on ne fait qu'empirer les choses.
Bon, alors, gardez le moral et à la prochaine !
À la prochaine !